Bienvenue dans le débat. Imaginez un instant la scène. On vous lâche en plein milieu du Sahara, sans équipement, je suppose.
Voilà, sans équipement, mais avec le meilleur état d'esprit du monde. Vous avez cette conviction inébranlable, absolue, que vous allez trouver de l'eau. Est-ce que cette simple force mentale, cette pensée pure, suffira à faire jaillir une source du sable brûlant?
Probablement pas, non? Mais posez-vous la question inverse. Sans cette conviction initiale que l'eau existe et qu'il faut la chercher, bah vous vous asseyez dans le sable et vous attendez simplement la fin.
Et c'est exactement cette tension qui anime notre échange d'aujourd'hui. Nous allons décortiquer les perspectives offertes par le manifeste fondateur de l'émission Univers Motivation.
Tout à fait, une émission diffusée sur la plateforme Radio Tam Tam Africa.
Exactement. Ce texte a été rédigé par la journaliste et éditorialiste Félicité Amaniava, Ra Vincent, qui présente sa vision d'un Netflix du savoir africain. Et au cœur de ce manifeste, il y a une question centrale que nous allons explorer. Selon ce texte, le véritable moteur de l'élévation personnelle est-il la reprogrammation cognitive interne, c'est-à-dire la façon dont on se perçoit mentalement?
Ou bien, à l'inverse, est-ce que ce moteur s'ancre avant tout dans la discipline structurelle, la gestion de l'environnement et l'action matérielle?
Voilà. Et pour ma part, je soutiens que ce manifeste place le cadre mental et la narration interne comme les architectes absolus de la réussite.
Et de mon côté, je suis convaincue d'une conclusion radicalement opposée. En insistant sur l'environnement, sur le temps comme capital et sur l'inutilité du savoir non appliqué, l'auteur démontre que la simple refonte psychologique est stérile, sans une exécution ancrée dans le réel.
Plongeons directement dans la mécanique du texte, si vous le voulez bien. La thèse de l'éditorialiste est posée dès le départ. Je cite « Atteindre plus grand commence par apprendre à penser plus grand ». Ce n'est pas juste une formule de motivation. Elle postule vraiment que la vie d'un individu ne dépend pas de ses capacités objectives, mais de la manière dont il se perçoit. C'est un mécanisme qu'on connaît bien dans neurosciences, en fait. C'est le système d'activation réticula de notre cerveau.
Vous faites référence au filtre cognitif, c'est ça?
C'est ça. Notre cerveau est bombardé de millions d'informations chaque seconde. Ce système filtre ce qui arrive à notre conscience en fonction de nos croyances internes. Si votre cadre mental vous convainc que vous êtes limité, votre cerveau va littéralement occulter les opportunités qui se trouvent physiquement devant vous.
Je vois l'idée.
C'est pour cela que le manifeste dit que la réussite est une programmation. La libération psychologique doit précéder l'action. Sinon, l'action elle-même est complètement aveugle.
Alors je conteste l'idée que ce filtre mental soit l'architecte, disons, absolu. Ce filtre cognitif, aussi performant soit-il, il se heurte inévitablement au mur du monde physique. Regardez les injonctions pratiques qui suivent immédiatement dans le texte. Félicité Amaniara, Vincent pose une règle d'airain. Votre environnement façonne votre trajectoire.
Oui, mais l'environnement...
Laissez-moi terminer. Le mécanisme en jeu ici n'est pas neurobiologique, il est structurel, il est social.
D'accord, mais comment définissez-vous cette friction structurelle, concrètement?
Prenez le concept de la fatigue cognitive. Vous pouvez avoir le meilleur état d'esprit du monde si vous évoluez dans un environnement dysfonctionnel, par exemple un manque d'infrastructures ou une absence de ressources économiques. Chaque petite action va exiger un effort de volonté surhumain.
C'est certain, l'effort est plus grand.
L'environnement exerce une force de gravité. La volonté finit par s'épuiser. Le texte pose clairement que l'environnement façonne la trajectoire. C'est de la physique de base. Un objet en mouvement, même lancé avec la meilleure intention, il verra sa trajectoire déviée par le vent ou la friction.
Je suis d'accord sur la friction. Mais l'environnement est neutre jusqu'à ce qu'il soit interprété. Pour comprendre pourquoi l'esprit reste le véritable moteur, prenons l'analogie de l'enfant qui est utilisée par l'auteur elle-même.
L'analogie des chaussures.
Exactement. Elle nous demande d'imaginer un enfant qui grandit, ses chaussures deviennent trop petites, alors il en change pour courir plus vite. Et elle conclut « Votre esprit fonctionne de la même manière ».
Sauf que c'est une métaphore profondément ancrée dans la réalité matérielle.
Attendez, laissez-moi vous expliquer comment je la lis. Ces chaussures, elles représentent nos croyances limitantes. L'enfant représente notre potentiel. Le fait de courir plus vite n'est rendu possible que parce que l'enfant prend conscience de la limitation. L'esprit se dilate. Il refuse l'étroitesse de son ancienne condition. C'est une décision purement immatérielle. Avant même de changer la chaussure physiquement, il y a un rejet cognitif de l'ancienne version de soi. C'est bien cette reprogrammation qui dicte le besoin de nouvelles chaussures.
Je trouve que vous intellectualisez un processus qui est d'abord biologique et surtout douloureux. Lisons la mécanique de l'analogie. L'enfant grandit parce que ses cellules se multiplient. C'est matériel.
Oui, bien sûr.
Ses chaussures deviennent trop petites, ce qui cause des ampoules,
une friction physique, l'enfant ne fait pas de la gymnastique mentale pour étirer le cuir de sa chaussure par la force de sa pensée.
Je n'ai jamais dit qu'il étire le cuir par la pensée, hein.
Non, mais en plaçant l'esprit comme architecte absolu, vous minimisez complètement l'acte physique qui est indispensable. La prise de conscience ne guérit pas l'ampoule. L'enfant doit accomplir une action concrète, enlever les chaussures, acquérir de nouvelles chaussures.
Mais l'intention vient d'abord.
Le texte utilise cette image pour nous dire que la croissance exige des ajustements structurels. Vouloir courir plus vite, c'est une très belle intention. Mais sans l'outil matériel approprié, sans l'interaction avec le monde réel, et ben l'enfant finit simplement avec les pieds en sang.
Je propose que nous utilisions une autre analogie, peut-être plus technologique, pour illustrer nos divergences.
Allez-y.
Comparons le cadre mental au système d'exploitation d'un ordinateur, l'OS, et l'environnement, l'action, au matériel informatique, le hardware. Vous me dites que si l'enfant n'achète pas les chaussures physiques, le hardware, il souffre. Moi, je vous réponds que si l'enfant n'a pas mis à jour son OS pour comprendre qu'il mérite de courir sans douleur, il continuera de porter ses petites chaussures en pensant que la souffrance est inévitable.
C'est-à-dire qu'il accepte sa condition.
Exactement. L'OS doit être patché en premier, sinon le hardware ne sera jamais remplacé.
L'analogie est pertinente, je vous l'accorde, mais elle se retourne contre vous.
Ah bon ? Comment ça ?
Introduit une notion capitale que vous survolez depuis tout à l'heure, le temps.
Le temps comme ressource, oui, c'est mentionné.
Le manifeste déclare, je cite, « Le temps est votre capital le plus précieux. Le temps n'est pas un système d'exploitation modifiable. Ce n'est pas une narration interne qu'on peut ajuster. C'est la ressource physique par excellence, universelle, limitée. Il s'écoule avec la même rudesse pour celui qui a un bon ou un mauvais état d'esprit. »
Oui, le temps passe, c'est une évidence.
Donc, gérer ce capital relève de la discipline structurelle, pas de la psychologie. C'est refuser une distraction immédiate pour accomplir une tâche physique.
Mais comment décidez-vous de ce qui est une distraction ou une tâche utile ? C'est le cadre mental qui attribue une valeur au temps. Si vous vous percevez comme quelqu'un de médiocre, passer 5 heures devant un écran vous semblera un investissement de temps tout à fait logique. Le temps est une monnaie, oui, mais c'est l'esprit qui fixe le taux de change.
Je ne suis pas sûr que l'esprit puisse modifier la valeur intrinsèque d'une heure perdue.
D'ailleurs, le texte martèle des affirmations qui montrent comment l'esprit altère la réalité. Il affirme « La confiance attire les opportunités, votre valeur commence par vous-même, et surtout, écoutez bien, vos mots créent votre réalité. »
Des mots qui créent la réalité. On frise la pensée magique, là, non ? Comment expliquez-vous ce mécanisme sans tomber dans l'ésotérisme ?
Il n'y a absolument rien d'ésotérique au atout. C'est la théorie des signaux en sociologie. La confiance attire les opportunités par un mécanisme de signalisation purement verbal et postural.
C'est-à-dire ?
Si je formule mes ambitions avec une assurance absolue, ma posture physique change. Les interlocuteurs, les banquiers, les partenaires vont réagir à cette signalisation. L'environnement matériel va littéralement s'adapter à la narration verbale que j'ai imposée. La valeur que je m'accorde dicte la valeur que l'environnement me renvoie. Donc oui, les mots ont un pouvoir de distorsion sur la réalité physique.
Une distorsion peut-être, mais dans des limites extrêmement strictes. Reprenons votre exemple du financement. Vous pouvez déclamer votre confiance avec les mots les plus puissants du monde. Si vous évoluez dans un environnement macroéconomique où le crédit est gelé, vos mots se heurteront à l'inertie de la matière.
Bien sûr, il y a des contraintes.
C'est la limite du déterminisme de l'environnement dont parle le texte. La réalité physique ne se plie pas si facilement à la narration.
Mais l'environnement est lui-même une série de constructions humaines qui ont, un jour, commencé par des mots. Et pour amener cela directement au concept central de l'éditorial, Félicité Amaneya-Ravincent parle de sa plateforme comme du « Netflix du savoir africain ».
Oui, c'est le titre de l'initiative.
Analysons cette image. Netflix, c'est une bibliothèque colossale de ressources. C'est l'environnement par excellence. Il est hébergé sur des serveurs, il existe matériellement.
Il est physiquement disponible, nous sommes d'accord là-dessus.
Mais cet environnement est fondamentalement inerte. Si votre cadre mental est formaté par défaut pour ne chercher que du divertissement facile, cette immense bibliothèque ne vous servira strictement à rien.
Vous passerez à côté du contenu éducatif.
Exactement. Vous resterez bloqué sur la page d'accueil. L'environnement est là, offert à tous, mais c'est l'intention de l'utilisateur qui active l'interface. Sans la perception de soi comme un apprenant, l'environnement n'est qu'un décor mort.
Vous avez raison sur le déclencheur de l'interface. Mais poursuivons votre image, parce qu'elle a des failles. L'abonné a l'intention la plus pure. Son OS est parfaitement à jour. Il veut apprendre.
Que se passe-t-il s'il n'a pas accès à un réseau Internet stable ? Son intention majestueuse s'écrase violemment contre la réalité matérielle.
Vous focalisez sur des points de défaillance purement techniques, là.
Je me focalise sur la conclusion incontournable du manifeste. À la fin de son éditorial, la journaliste donne une commande impérative à son audience. Elle ne dit pas simplement « croyez en vous ». Elle dit « abonnez-vous, partagez-le autour de vous et surtout, appliquez-le ».
L'application est nécessaire ? Oui.
Pourquoi une telle insistance sur l'application ?
Parce que l'objectif revendiqué du programme n'a de sens que s'il aboutit à, je cite, « construire l'avenir ». Construire, c'est l'inverbe d'ingénieur. C'est l'assemblage de matériaux lourds.
Je ne nie pas la phase de construction. Évidemment que l'architecture mentale doit finalement se traduire par le geste.
Le texte va beaucoup plus loin que ça. Il qualifie cette démarche de discipline. La discipline, c'est l'antithèse de la motivation mentale.
Ah, je ne dirais pas l'antithèse.
Si, parce que la motivation, c'est l'oasis qui fonctionne bien les jours où il fait beau. La discipline, c'est la répétition mécanique et structurelle d'actions physiques, même lorsque le cadre mental s'effondre. C'est la garantie que le monde matériel continuera d'être transformé, même quand vous ne croyez plus en vos propres mots. C'est le triomphe de la structure sur la pensée. Ce n'est pas le triomphe de la structure, puisque la structure n'aurait jamais été créée sans la pensée initiale. D'ailleurs, regardez comment l'auteur qualifie l'outil ultime de cette transformation. Elle écrit « Votre créativité est votre avantage stratégique ».
Et la créativité doit s'incarner.
Mais qu'est-ce que la créativité sur le plan neurologique ? Ce n'est ni du muscle, ni du temps, ni de l'environnement. C'est l'association inattendue de deux concepts immatériels pour former une idée nouvelle. Si la créativité est l'avantage stratégique absolu, cela démontre que même dans l'arène de l'action, c'est l'intellect qui domine.
L'intellect propose, mais l'action dispose.
Mais l'action dépend directement de l'intellect. Mettez deux individus dans des environnements contraints identiques, avec le même capital temps. Ils subiront tous les deux la friction matérielle. Pourtant, celui qui utilise la créativité de son esprit trouvera en raccourci une méthode pour contourner l'obstacle. L'action purement mécanique ne fait que s'épuiser contre le mur. La créativité trouve la porte. L'esprit reste le multiplicateur de force qui donne à l'action sa valeur.
Une créativité qui ne trouve pas la porte dans la réalité physique, c'est ce qu'on appelle une hallucination, tout simplement. Et le manifeste clôture tout débat sur la primauté de la pensée par une sentence assez implacable. Le savoir sans action reste inutile.
Inutile, dans le sens où il n'est pas encore manifesté ?
Non, le mot inutile est d'une violence conceptuelle totale. Le texte ne dit pas que le savoir sans action est moins efficace ou qu'il prendra plus de temps, il dit qu'il est privé de toute utilité. Sa valeur retombe à zéro.
C'est une façon de parler.
C'est mathématique. Si l'action égale zéro, alors le savoir et le cadre mental égalent zéro. C'est la preuve que dans la hiérarchie des valeurs de l'éditorialiste, la matérialisation de la pensée a le droit de vie ou de mort sur la pensée elle-même. Sans l'incarnation physique, vous n'êtes qu'un philosophe de salon.
J'entends la rudesse de cette équation, vraiment. Mais je pense que vous inversez le sens de la causalité. Pour que l'action ne vaille pas zéro, il faut d'abord qu'elle ait lieu. Et pour qu'elle ait lieu, face à la difficulté environnementale que vous décrivez, l'individu doit avoir forgé une conviction interne indestructible. Si nous résumons nos échanges, je dirais que la posture fondamentale de ce manifeste aborde l'émancipation par l'esprit. Le texte pose l'argument que si nos limites actuelles sont dictées par notre perception, alors l'architecture de notre avenir commence par les mots que nous prononçons. L'action, bien que vitale, n'est que la trace visible de ce bouleversement intérieur. L'esprit est la source, l'action est le fleuve.
Et pour synthétiser la perspective que je défends, je dirais que le manifeste refuse justement de s'enfermer dans la pensée magique. L'esprit est peut-être la source, oui, mais un fleuve sans rive pour le contenir, ce n'est qu'un marécage. Le texte ramène constamment l'auditeur à la gravité terrestre. Les véritables leviers sont exogènes. L'environnement, la gestion impitoyable du temps et la nécessité absolue d'une discipline d'application. Sans cette exécution mécanique, tout le savoir du monde s'effondre.
Il y a un point sur lequel nous convergeons totalement. Le manifeste d'Univers Motivation articule la nécessité de la psychologie cognitive avec l'impératif du pragmatisme structurel.
C'est la reconnaissance que nous sommes des êtres de pensée, certes, mais que nous évoluons dans un monde régi par les lois de la physique et du temps. Le texte exige vraiment une double compétence, maîtriser notre dialogue intérieur tout en affrontant la friction de notre réalité.
Et c'est ce défi que nous laissons entre les mains de notre audience. Nous vous invitons à explorer ce manifeste par vous-même, diffusé sur Radio Tam Tam Africa, face à vos propres obstacles. Que devez-vous faire ? devez-vous d'abord recâbler la manière dont vous percevez votre propre valeur ou devez-vous agir mécaniquement pour modifier l'environnement qui vous entoure ?
La question reste ouverte.
Exactement. Souvenez-vous de notre homme dans le désert. La simple conviction de trouver de l'eau ne fera pas jaillir une source. Mais sans cette conviction, on ne se lève même pas pour commencer à creuser. Alors, par quoi allez-vous commencer ? Merci de nous avoir rejoints et à la prochaine pour prolonger le débat.